Chapitre 2. Traversée terrestre. Un garçon, gros et gras, dont la chevelure d'un jaune pâle décelait l'origine saxonne, et un poney à poils bruns tout ébouriffé, attelé à une pauvre petite carriole, furent les premiers objets qui frappèrent mes yeux en arrivant à la gare. Le jeune homme, à qui je demandai s'il était le domestique du révérend Finch, me répondit laconiquement « Oui ». Nous traversâmes les rues sans voir âme qui vive aux croisées et aux portes closes. Nous n'aperçûmes que l'hôtel de ville, sur les marches duquel se prélançait un policeman, plongé dans une morne rêverie. Les boutiques étaient veuves de chalands, et s'il y en avait eu, il n'aurait trouvé personne pour les servir, quoiqu'il y eût bien par-ci par-là quelques rares habitants qui semblaient n'avoir rien à faire de mieux que de nous regarder avec de gros yeux effarés. Je demandai aux petits domestiques s'ils étaient riches. « Je crois bien !» me répondit-il en souriant. « Tant mieux » m'écriai-je, « mais ils n'ont pas l'air de s'amuser. » Laissant derrière nous cette ville avec ses habitants claquemurés dans leurs caveaux de famille, nous reprîmes la grande route qui montait à travers la campagne. Mon pauvre Pratolungo m'avait inculqué l'habitude d'occuper mes moments perdus, en voyage, en sondant les opinions politiques de mes semblables. Je me mis donc à questionner le petit domestique. Voici quel était littéralement son programme social. Viande et bière à discrétion et aussi peu à faire que possible. En retour, pour ces bonnes choses, tirer son chapeau au châtelain du pays et se contenter de la condition que Dieu lui avait imposée ici-bas. Pauvre garçon, qu'il était à plaindre! À notre droite, la campagne se perdait dans un vallon, avec un village et son clocher, auprès duquel se trouvait une de ces étendues d'arbres et de gazon qui réveillent toujours ma haine et auxquelles un tyran privilégié, après les avoir arrachés à la communauté, donne le nom de parc. Au milieu, le palais, dans lequel cet ennemi de l'humanité festoyait et s'engraissait aux dépens d'autrui. À gauche, une chaîne de collines couverte de hautes herbes s'étendait jusqu'à l'horizon. À ma surprise extrême, le petit domestique descendit de son siège, prit le poney par la bride et lui fit quitter la grande route pour s'engager dans ces collines, où l'œil ne pouvait distinguer ni route ni sentier tracé. La voiture se mit à cahoter brusquement de droite et de gauche, d'une manière qui rappelait à s'y méprendre le roulis d'un navire en pleine mer, et me força de me cramponner à mon siège. Craignant plus pour mes mâles que pour moi, je m'adressai au petit domestique. « En avons-nous encore pour longtemps ?»« Encore 3 000 !» J'exigeai qu'il arrêtât le vaisseau, pardon, la voiture, et je descendis. Nous attachâmes solidement les mâles au fond de notre véhicule et nous nous remîmes en route. Le domestique conduisait le poney par la bride, tandis que je suivais à pied. Ah, la délicieuse promenade, le bon air, l'herbe touffue! Un doux zéphyr m'apportait le parfum de la campagne, mêlé à l'air vif et salé de la mer. De grands nuages blancs, entassés les uns sur les autres, défilaient à travers l'azur. Nous avancions toujours, tournant tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt montant, tantôt descendant. En jetant les yeux autour de moi, je n'apercevais ni maison, ni route tracée, ni haie, ni clôture, enfin rien de ce qui indique un pays habité. À l'exception de moutons semblables à de petits flocons blancs et d'une alouette qui, perdue dans l'azur, chantait son hymne d'allégresse, rien de vivant. Quelle singulière région! À une demi-journée de Brighton, la ville bruyante et affairée par excellence, le voyageur n'aurait pu, comme le marin en pleine mer, se diriger qu'à l'aide de la boussole. Plus nous avancions, plus ce pays sauvage devenait beau. Le petit domestique me précédait. Je le suivais lentement, n'apercevant plus par moments que le fond de la voiture presque perpendiculaire, tandis qu'elle semblait s'enfoncer avec son conducteur dans le ravin. Puis, quand nous montions, c'était tout le contraire. Je pouvais voir alors tout l'intérieur de la voiture qui se dressait devant moi, surmontée du cheval et du domestique, et mes pauvres mâles se balançant dans les liens fragiles qui les retenaient à peine. À chaque instant, je m'attendais à voir mal, cheval, voiture, domestique, rouler pêle-mêle dans la vallée. Nous n'eûmes cependant aucun accident à déplorer. Le petit domestique était passé maître dans l'art de conduire les poneys dans des dunes. Nous en étions, je crois, à notre 50e colline, quand je cherchais de nouveau quelque indice du village, but de notre voyage. Derrière nous, les ondulations des collines, avec l'ombre des nuages, traversaient le désert que nous quittions. Devant moi, j'aperçus dans le lointain, à travers une éclaircie, la ligne vague et blanche de la mer. À mes pieds, une vallée, la plus considérable que nous eussions encore vue, défigurée sur un des côtés par un champ labouré, odieux indice de la présence de l'homme. Je demandai au petit domestique si nous approchions du village. « Oui, » me répondit-il en clignant de l'œil. Singulier enfant, quelques questions qu'on lui adressa, ce jeune oracle ne répondait que par les deux ou trois mots monosyllabiques qui semblaient former le fond de son vocabulaire. Nous descendîmes dans le vallon. Arrivé là, je découvris une route grossière creusée dans un banc de craie. Deux marmots surgirent tout à coup d'un fossé où ils avaient été posés en sentinelles perdues pour annoncer notre arrivée et s'enfuirent à toutes jambes par un chemin de traverse connu d'eux seuls sans doute. Nous contournâmes de nouveau la vallée et nous traversâmes un ruisseau. Je crus qu'il était de mon devoir d'apprendre les différents noms des localités. « Comment appelle-t-on, demandai-je au petit domestique, ce ruisseau et cette grande colline à ma droite ?»« L'un s'appelle le Limay et l'autre la Motte, » me répondit-il. 5 minutes après, nous vîmes enfin la première maison du village. Elle était isolée et mon compagnon me dit qu'elle s'appelait Les Sables. Je découvrais enfin le but de mon voyage. « Nous y voilà, » me dit le domestique. « Voilà donc Dymchurch. » Je secoue la craie qui blanchit les volants de ma robe. Que ne donnerais-je pas pour le plus petit miroir qui me permit de réparer le désordre de ma toilette? J'ai devant moi la population du village, 5 ou 6 personnes prévenues de notre arrivée par les 2 gamins posés en vedette, et je sens que ce serait faillir à mes devoirs de femme que de ne pas produire sur les habitants la meilleure impression possible. Aussi, je prodigue mes plus gracieux sourires à la population qui répond à mes avances en me dévisageant sans mot dire. D'un côté, 3 ou 4 chaumières, un espace vide, l'auberge des 3 croix, un terrain inoccupé. Puis, une toute petite boucherie n'exhibant, en fait de provisions, qu'un plat en faïence bleue contenant les abats sanguinolents d'un mouton. Au-delà, la rase campagne et les collines qui bornent le village. À l'opposé, un long mur servant de clôture au bâtiment d'une ferme. Au bout de ce mur, un autre petit groupe de chaumières et un produit de la civilisation, un bureau de poste. On vend dans le sudit bureau un peu de tout. Des chaussures et du lard, des biscuits et de la flanelle, des crinolines et des brochures religieuses. Plus loin, un autre mur, un jardin, une habitation bourgeoise qu'on reconnaît à première vue pour être le presbytère de l'endroit. Puis, sur un monticule, une pauvre petite église surmontée d'un clocher rond en pierre blanche et d'une sorte d'éteignoir en tuiles rouges. Le tout borné par les montagnes et le ciel bleu. J'ai décrit Dymchurch. Mais les habitants? Voici la vérité. Je ne vis parmi eux qu'un seul être bien élevé. C'était un chien de berger. Seul, il me fit les honneurs de l'endroit. Il n'avait plus qu'un méchant bout de queue qu'il remuait difficilement et une brave figure noire et blanche qu'il vient frotter amicalement contre ma main. « Bonjour, Madame Pratolungo, » semblait-il me dire. « Sois la bienvenue à Dymchurch et excuse la grossièreté de ces rustres qui te regardent la bouche béante. Le bon Dieu qui a tout créé leur a donné la vie, mais il n'a pu réussir aussi bien qu'en nous créant, toi et moi. » Je me flatte d'être un des rares privilégiés qui savent lire le langage des chiens sur leur physionomie. Je ne fais que traduire fidèlement le propos que me tint ce gentleman à 4 pattes. Ayant ouvert une barrière, nous entrâmes dans le presbytère, et c'est ainsi que j'arrivai à bon port après ma traversée dans les dunes.